Que l'Éternel soit béni.
Vous savez,
cette paracha, et depuis quelque temps, toutes les parachiotes m'amènent à un niveau plus élevé dans la compréhension de la manière dont Dieu établit les choses par avance. Et que finalement, on a l'impression qu'on vit des choses aujourd'hui qui ont l'air d'être liées au hasard, qui sont des conséquences purement liées à la gestion de l'homme sur la planète, l'univers. Et les événements qui passent un petit peu plus inaperçus de ce côté-là sont les guerres, les problèmes climatiques et tout un tas de choses qui sont en train de se produire sous nos yeux. Et on a l'impression que c'est simplement de la gestion politique qui doit se faire dans des cadres très spécifiques où ils n'aboutissent pas d'ailleurs à des accords. Et on a l'impression que de toute façon, ils vont régler le problème, qu'ils vont arriver à stabiliser un certain nombre de choses et que de toute façon, ils ont bien les choses en main et qu'ils se sont avérés être les grands spécialistes de la gestion des conflits dans le monde. Et ils ne règlent rien. Que ce soit la Libye, l'Irak, l'Iran, que ce soit l'Afghanistan, le Pakistan, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Somalie, que ce soit le Mali, que ce soit le Centrafrique, et que ce soit le Darfour, etc., etc., etc. Ils n'ont rien résolu. Et ils n'arriveront pas à résoudre. Et on entend toujours que, de toute façon, ils vont établir un certain nombre de principes qui vont amener des solutions. Et concernant le conflit du Proche-Orient, qui est encore distingué de tous ces conflits, ils disent que maintenant la seule solution est un État, mais qui détruit l'autre État. Parce qu'il faut savoir que derrière, il y a d'autres résolutions qui ont été soumises que les Américains n'ont pas accepté. On peut reprocher à Obama beaucoup de choses, mais au moins, ce côté-là, on peut lui laisser. Mais il y a quand même un grand danger, c'est de voir que maintenant, il y a le complot des nations qui veut détruire la réalité de l'État d'Israël. Et pour cela, ils vont utiliser l'islam. Ils vont utiliser ce qui se passe pour arriver à leur fin. Parce qu'ils pensent qu'ils ont commis une erreur en 1948. C'est ce qui est présent aujourd'hui. Ils disent tous qu'ils n'auraient jamais dû donner un État aux Juifs. Et pourtant, Dieu l'avait déjà prévu. Mais eux disent, non, on s'est trompé. Ces Juifs-là n'avaient pas besoin d'un État. Et pourtant, Isaïe le prophète, bien des millénaires avant, l'a prophétisé. Toute la Bible et les prophètes en parlent. Alors, si je dis cela, c'est parce que quand on remonte très très loin, nos sources ne sont pas des sources purement historiques, purement politiques, de l'histoire politique, sociologique, etc., ne sont pas non plus des analyses que les hommes font ou simplement des spéculations qui sont amenées, même par la théologie, concernant le peuple juif, qui est toujours à part, même en théologie. Le peuple juif est toujours quelque chose qui se distingue et que, quelque part, il dérange parce qu'il est présent dans la Bible. Et on voudrait bien que l'Ancien Testament ne soit plus. On voudrait bien que cette partie-là de la Bible ne soit même plus lue, ne soit même plus mentionnée. Et d'ailleurs, le langage courant d'aujourd'hui, de beaucoup, c'est de dire « mais on n'y comprend rien ». Bien sûr, si tu ne l'étudies pas, tu ne vas pas comprendre. Mais on en est arrivé là, de plus en plus. Et on est de plus en plus vers des généralités de substituts. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu doit donner une intelligence supérieure aujourd'hui. L'Éternel doit donner de la sagesse, mais il doit aussi nous donner une révélation qui dépasse le cadre de la compréhension humaine et de la révélation humaine, purement intellectuelle, analytique, et rentrer dans la révélation d'en haut. Une révélation que l'homme ne peut atteindre par lui-même, mais que Dieu peut donner. Car c'est lui qui connaît les temps. C'est lui qui connaît les événements. C'est lui qui sait ce qui va se produire. Et dans tous ces temps de l'étude de la Torah, et mon cœur est travaillé. Et je suis profondément travaillé. Dans beaucoup de choses. Et cette paracha, je me disais, mais à un moment donné, Seigneur, comment je peux aborder, déjà pour moi personnellement, qu'est-ce que je dois comprendre? Si elle est là, la paracha, dans cette semaine-là, dans cette période-là, dans cette année-là, est-ce qu'elle est là par hasard? Ou est-ce qu'elle nous donne un enseignement sur le temps, sur ce qui se produit? Ou est-ce que c'est simplement une petite histoire que vous racontez aux enfants au pied du lit? Une jolie histoire. Et ainsi, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Point final, F.I.N. Bonne nuit les petits. Et puis, passer à autre chose. Et ne prendre cela qu'à un degré de compréhension humaine, d'enseignement pour les enfants, mais pas pour adultes. De quelque chose qui va toucher simplement la famille. Et pourtant, dans cette paracha, qu'on ne développera pas entièrement maintenant, mais dans cette paracha, il y a tout. Comme dans chaque paracha, il y a tout pour le futur. Comme dans chaque lettre de l'alphabet hébreu est écrit l'histoire de l'humanité, de son commencement, de son invisibilité au révélé à sa finalité. Aleftav. Et nous voyons que le Bereshit n'est que quelque chose qui commence, mais qui n'est pas achevé. Et que chaque nom, chaque terme qui est utilisé dans la paracha a un sens profond. Et la paracha, elle veut dire aujourd'hui, il s'approcha. Et je crois que c'est très important parce que les parachas d'avant étaient liés à « il envoya », « il s'installa » et maintenant nous arrivons à un niveau supérieur, « il s'approcha ». Alors pourquoi finalement toutes ces différences dans la paracha qui sont extraordinaires? Parce que on pourrait s'arrêter à « il a envoyé le Mashiach », « le Messie est venu ». Le Messie viendra. Le Messie régnera. Nous pourrions nous arrêter à cet paracha. Dans la vie de Yaakov devenu Israël, expliquant un certain nombre de choses. Et puis, il y avait « il s'installa ». Et maintenant, nous sommes dans « il s'approcha ». Et dans « il s'approcha », il nous faut aller vraiment dans la profondeur. C'est que Yosef, qui, comme l'a dit Christian tout à l'heure, a été vendu par ses frères, comme esclave, et écoutez bien, à l'Égypte. Il a été vendu comme esclave à l'Égypte. Pas comme esclave pour l'Égypte, mais à l'Égypte. Yosef n'était qu'un jeune garçon, un jeune homme, et certainement plein d'illusions. C'est toute l'histoire de sa vie qui nous est relatée, là maintenant condensée, dans cette paracha, et qui nous amène à comprendre que cette histoire qui nous est relatée est une histoire qui va avoir deux niveaux, et de compréhension, parce qu'elle va toucher, et j'ai fait exprès de toucher dans un premier temps, dans la douceur, l'édification que nous devons avoir, individuellement et collectivement, et de manière communautaire, pour aller plus loin dans la profondeur de la révélation. Et là, on touche des niveaux jamais atteints. Et à ce moment-là, il nous faut comprendre quand même les bases. Quand nous parlons de notre vie, nous parlons de quoi? Quand tu parles de ta vie, qu'est-ce que ma vie? Souvent j'entends ça. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que la vie? La vie, ben voilà, c'est une survie, on travaille pour l'alimentaire, pour acquérir peut-être quelque chose, pour donner, pour faire, pour se marier, avoir des enfants, vieillir ensemble, quand on n'a pas divorcé à l'avance, essayer de construire quelque chose qui, de toute façon, tira, nous échappera le concept de la vie, qui n'est pas purement philosophique, parce qu'il est spirituel tout au fond. Il est lié à la compréhension de la création de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, Adam est le seul être humain à ne pas avoir eu de père, mais d'avoir été créé à l'image dans le Tselem. Et ça, ça marque une grande différence. Et ce que Adam aurait dû amener, et qui a raté, a tout modifié. Alors on va plus loin. Quand tu parles de ta vie, quand je parle de ma vie, je parle de quoi? Très souvent, on ne sait pas. On a des idées. Alors une vie, elle a plusieurs manières d'être vécue. Soit sans la présence de Dieu, donc sans but, dans un plan futur de Dieu. Sans la compréhension de quelque chose qui est à venir. Parce que tout ce que tu vas construire sera temporel, sera approximatif, sera lié à de l'errance et n'aura aucune stabilité. Et le monde nous le montre. Le monde change constamment. Une vie sans but dans le plan de Dieu veut dire c'est une vie qui va être dominée. Une vie dominée par la souffrance, l'amertume, l'exil, les ruptures. Ce qui en gros veut dire une vie brisée. Donc qu'est-ce que la vie ? Si c'est pour être toujours dominé par des choses et qui fait que la vie devient brisée, alors que, à la base, je crois qu'il est fondamental de le saisir, la vie n'a pas été faite pour qu'elle soit brisée, mais accomplie, heureuse, entière, pleine. Et nous voyons une vie brisée. Donc on prend l'exemple de Yosef. La deuxième chose, c'est de comprendre une vie qui est conduite, qui est donc orientée, dirigée par et dans la présence de Dieu. Personne ne peut savoir, et ça c'est le secret des Juifs, personne ne peut savoir ce que nous réserve la vie demain. Aujourd'hui nous sommes bien, demain nous serons peut-être mal. Aujourd'hui tu es en bonne santé. Dans 5 ans, 10 ans, peut-être, une mauvaise nouvelle. Une maladie, un décès, un changement, une modification professionnelle, qui sait. Tout ce dont nous avons vécu et investi peut nous être enlevé du jour au lendemain, parce que nous ne savons pas. Mais quand on est dans la présence de Dieu, quand on vit dans sa présence, et non dans l'absence de sa présence, ou de faire semblant qu'on vit avec Dieu, mais on se comporte comme si Dieu n'était pas. Et on vit comme si Dieu n'était pas, mais on parle de lui, on peut le chanter, on peut le prier, on peut l'invoquer, on peut tout simplement lire la Bible et avoir de la connaissance biblique, et ne pas être dans sa présence. Alors ce que cela veut dire, c'est que l'important, c'est d'avoir en soi la compréhension du plan de Dieu. Car celui qui comprend le plan de Dieu va pouvoir donner un sens à son histoire et donner un sens à l'histoire de ses enfants, de ses petits-enfants. Et ça donne une fin totalement différente. Alors il nous faut comprendre et admettre en même temps que le but de la souffrance dans sa vie n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Car si je résume, en parlant avec qui que ce soit, aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne pense pas trouver vraiment une personne qui me dise « Je vais très, 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 très bien depuis X années et j'irai bien demain. » J'ai jamais rencontré ça. Jamais. On peut espérer. Mais perso, je ne l'ai jamais vu. Alors, on va aussi prendre dans la paracha, hein, dans les versets que tu avais cités, mais en parallèle, quelque chose qui est très vite lu ou très vite cité, c'est Romains 8, 28, qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. » Attention, pas de ceux qui parlent de Dieu, de ceux qui sont les théoriciens, mais de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc vous pouvez le lire à la maison. Toutes choses, ça veut dire que chaque jour contient des choses. Chaque jour a son bon et son mauvais. Alors, on va aller un peu plus loin. Tout ce qui est vécu a un sens. Mais qui comprend le sens du vécu? Personne. C'est ce qui donne de la force aujourd'hui à la psychologie, aux médicaments, aux nouvelles formes de relaxation, le yoga, le zen, et toutes ces philosophies orientales et tous ces machins qui viennent, même les massages, parce que on est dans une autre dimension. Et donc, tout ce qui est vécu a un sens. Mais comment je le comprends, ce sens? Quand il m'arrive du bon, pas de problème. Il m'arrive un bon petit chèque, pas de problème. Un mandat, pas de problème. Un héritage, pas de problème. Quand c'est positif, pas de problème. Je ne me pose même pas la question. Mais quand il arrive des tuiles, on dit pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, au quotidien, il ne nous arrive pas que des gros trucs. Il nous arrive des petits trucs, des contrariétés, des machins, des trucs qui nous mettent pas toujours bien. Et puis on est là, on se bagarre avec. Et en même temps, on se dit, mais à chaque jour suffit sa peine. Et on passe au lendemain. Et quand on a fait le lendemain, eh ben on vit encore une journée. Et on les accumule. Et puis à un moment donné, ça devient un bloc. Impossible à dénouer parce qu'il y a tellement de choses qui se sont produites. Alors imaginez que Yosef a passé 22 ans loin de ses parents et qu'il a vécu plein de choses en Égypte et qu'il n'a pas vécu que des choses heureuses. Pourtant, Dieu l'a appelé. Pourtant, Dieu lui a promis. Dieu lui a montré quelque chose de merveilleux. Et pendant 22 ans, analysez vos 22 ans en arrière. Je vous mets au défi de vous rappeler de tout. Mais il y a des événements qui sont comme des anniversaires, qui sont ce qu'on appelle, nous, dans l'hébreu rabbinique, la marque du cœur. C'est marqué dans le cœur. Ce n'est pas marqué purement dans le cerveau. C'est marqué dans le cœur. Et que le corps se souvient même de ce qui s'est passé. Pendant 22 ans, essayez d'imaginer un certain nombre de choses. Analysez là où vous êtes là maintenant, à cet instant même. Si vous n'avez pas encore 22 ans, tant mieux pour vous. Je pense au petit gars là-bas. Et ils m'ont regardé, mon Dieu. Mais tous ceux qui ont passé les 22 ans, quand on se rappelle, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Mais qu'est-ce que j'ai vécu? Tellement de choses. Mais on dit tellement de choses que comment j'ai pu survivre à tout ça? Comment j'ai pu survivre à tout ce qui m'est arrivé? Comment j'ai pu survivre à toutes ces douleurs, à toutes ces souffrances? Comment j'ai pu me garder en vie? Comment encore j'arrive à vivre? Et le problème, c'est que beaucoup vivent dans une espèce de psychologie de survie mais pas dans le fait d'avoir la vie. Et en même temps, c'est quelque chose qui fait que si on approfondissait, ça pourrait aller très loin. Mais tel n'est pas mon propos. Parce que notre perception d'aujourd'hui par rapport à toutes ces années où nous avons vécu plein de choses, nous amène à quand même réaliser que il y a dans la vie pas uniquement des attaques, des souffrances, des destructions en nous. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses positives. Mais comment se fait-il que nous soyons toujours dominés par les choses qui nous ont fait souffrir ? Et que malgré le fait qu'on ait pu vivre des choses belles, positives, des parents qui ont aimé, mais devant certains types de souffrances, l'amour des parents n'est pas assez lourd dans la destruction de la personnalité, de l'identité de l'être. Il est un recours, mais il n'est pas une guérison en soi. Il ne guérit pas, il ne délivre pas. Et il y a plein de choses que nous pourrions dire à ce niveau-là. Parce que dans tout ce que nous avons vécu, nous percevons, en règle générale, hein, je ne m'étale pas trop là-dessus, mais nous percevons l'épreuve et la souffrance de la vie comme étant simplement liée à un ennemi extérieur qu'on appelle Satan, que l'on appelle démon. Et on oublie que dans la vie, il n'y a pas que Satan et les démons. Qu'il y a plein de choses que nous avons fait, nous aussi, comme choix, qui ont mis des ruptures, qui ont amené des destructions, qui nous ont aussi cassés. Et qu'il y a des choix des parents qui, parfois, ben malheureusement, nous devons en subir les conséquences. Il y a des choses comme ça qui se produisent. Et on ne peut pas toujours dire « Ah, mais j'ai été attaqué là, 22 ans plus tard, il n'y a rien eu comme vécu, il n'y a pas d'historique à ma souffrance, il n'y a pas d'historique à ma vie brisée, à tout ce que j'ai vécu, il n'y a pas d'historique. Mais c'est simplement aujourd'hui, je découvre là, parce que je suis dans le système, ah, voilà, la raison de ma souffrance, c'est Satan. C'est les démons. C'est tout plein de trucs. Et puis, on oriente tout, être délivré, être délivré, être délivré, être délivré, être délivré. Et qu'est-ce que tu veux délivrer ? Que tu as simplement, si tu as envie d'être délivré, tu as simplement à lui dire à l'autre là, tu lui dis Satan, tu sais où elle est ta place, elle est là-bas. Ici, c'est Dieu qui règne. C'est Aor Laolam, la lumière de l'éternité. C'est la puissance d'en haut qui t'a créé, qui est plus forte que toi et qui t'a vaincu. Donc ta place, elle est là-bas. Là, t'es délivré. T'es délivré. Mais t'es pas délivré de ton vécu. T'es pas délivré de ton vécu. Et la confusion dans beaucoup de domaines, c'est de faire croire que parce qu'on va spiritualiser, amener un bouc émissaire, une cause, une raison, une identification du mal en soi, on va régler le problème. Et l'expérience le démontre, c'est NON. Parce que le vécu est là. Vous avez vécu 22 ans. Si on se remémore, c'est 22 ans, c'est bien plus. Mais en se remémorant 22 ans, le diable n'était pas dans ses 22 ans quand même. Non ? Ou alors il était au quotidien avec la petite fourche. Non, mais essayons d'être objectifs, réalistes, je ne me moque pas, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais les souffrances vécues doivent nous donner une compréhension. Est-ce que Yosef, en ayant vécu ce qu'il a vécu, est-ce qu'une prière de délivrance l'aurait délivré ? Ben alors, il suffisait de super-onction qui arrive sur un nuage et puis qui lui demande de dégager. Et puis, Yosef serait revenu chez papa, sans problème. Eh ben non. Et cela veut dire que la confusion, ce n'est pas que ça n'existe pas. Le Yetzer Hara, ça existe. La puissance du mal existe. Mais il lui faut un pivot d'action. Et c'est nos vies, c'est nos vécus. Et ce que nous avons vécu, c'est ce que nous avons mémorisé dans le mal. Et que nous n'avons pas la mémorisation de la bracha de Dieu. Parce qu'on parle beaucoup de bénédiction. On dit beaucoup « je suis béni parce que je me sens mieux ». Non, tu n'es pas béni parce que tu te sens mieux. Tu es béni parce que tu es attaché à Dieu. Parce que Dieu t'ouvre un chemin qui te sépare du mal. Et c'est une souffrance aussi des fois. Mais ça met du temps à s'accomplir. Alors on va plus loin. Parce que le but final de toutes ces choses, c'est la mort. C'est de conduire l'être à la mort psychologique. La mort affective, la mort intellectuelle. Ce qui donne déjà les symptômes du séjour des morts, c'est la déprime. Mais encore plus, c'est d'être déprimant. Et c'est d'amener la déprime chez l'autre. Et vous avez vu comment ça se passe ? Tu vas bien, tu côtoies quelqu'un comme ça, et ensuite c'est toi qui vas mal. Mais pourquoi ? Parce que ça se transmet. Mais comment ? Et il faut savoir là que... il y a quelque chose d'extraordinaire à comprendre, c'est que quand on pense que l'on est supérieur dans son onction, sa puissance, sa foi, et que l'on est capable de vaincre la souffrance de l'autre, qui est le fruit et le résultat de quelqu'un qui est dans la dépression, c'est pas, ça ne s'est pas passé le jour d'avant, hein. C'est une histoire. Et qu'à un moment donné, de penser simplement que la personne va être libérée comme ça, par enchantement, est faux. Parce que c'est toute une histoire. Alors la personne est déçue, et puis elle essaye de se ressourcer, et puis ensuite elle va là, 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 là. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est pas ça qui est important. Et on comprend qu'à un moment donné, ce n'est pas cela. Mais Dieu nous guérit dans la souffrance. C'est quand on souffre qu'il guérit. Ce n'est pas quand on va bien qu'il nous guérit, c'est quand on souffre. Vous avez capté ça ? Je n'ai pas besoin de l'expliquer alors. Bon, ben c'est bien. Non, parce que dans l'hébreu, c'est très profond ça. Mais pourquoi ? Parce que tu ne peux pas guérir quand tu vas bien, tu vas bien. Tu n'as pas besoin de guérison quand tu vas bien. Donc, regardez maintenant les orientations essentielles principales. C'est que premièrement, tous ces niveaux de destruction, toutes ces choses qui relient d'ailleurs à la mort, comme je l'ai dit, c'est qu'elles nous coupent de l'accès à la vie et de vivre et d'avoir une vie et un sens à la vie. Et on peut malheureusement s'en nourrir beaucoup. Mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque on veut le définir dans la pensée de Dieu, c'est pas du tout le même sens. Là, j'aurais pu rentrer dans la psychologie, donner des choses que même beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais le but n'est pas là. On va lire dans Dvarim, dans les Deutéronomes. C'est maintenant qu'on entre dans le sujet. On introduit l'introduction du sujet. J'ai dit Dvarim. Hein. Chapitre 8, et on va lire les versets, ou à partir du verset 1 là. Tous les préceptes que je vous impose en ce jour, ayez soin de les suivre, afin que vous viviez et deveniez nombreux. Quand vous serez entrés en possession de ce pays que l'Éternel a promis par son serment à vos pères. Alors, le verset 2, c'est celui qu'on doit appuyer. Tu te rappelleras cette traversée de 40 ans tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu, et là le terme hébreu est fort, t'a fait subir. On continue. T'as fait subir dans le désert afin, et écoutez bien, de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, si tu resterais fidèle à ses lois ou non. Le verset 3. Oui, regardez, hein, il t'a fait souffrir. Oui, le diable. Et endurer la faim, puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères pour te prouver que l'homme ne vit pas des pains seulement, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Les versets 16. Ouais. Qui t'a nourri dans ce désert d'une manne inconnue. Vous voyez la guérison où elle est là ? Inconnue à tes aïeux. Car il voulait t'éprouver par les tribulations pour te rendre heureux à la fin. Et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras, qui m'a valu cette richesse. Non, c'est de l'Éternel ton Dieu que tu dois te souvenir. Car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance, jurer à tes pères comme il le fera à cette époque. Or, si jamais tu oublies l'Éternel ton Dieu, si tu t'attaches à des dieux étrangers, même des dogmes, des doctrines, des formes cultuelles étrangères à Dieu, que tu les serves et que tu leur rends hommage, je vous le déclare en ce jour, vous périrez. Quand même raide. Hein. Alors, c'est vrai que dans ces quelques versets, nous avons presque tout. Et nous comprenons que Dieu a aussi sa part dans notre vie. Et qu'il a une manière de nous éprouver. Et que ce que l'homme fuit le plus, c'est le chemin, la correction de Dieu. Et il va chercher ailleurs et il veut l'éviter à tout prix. Il veut toujours éviter. Il est toujours dans la fuite, il est toujours dans quelque chose où il faut échapper à quelque chose qui doit nous construire. Parce que c'est notre espérance qui en pâtit. Alors, si on va plus loin, que dit Yosef dans la paracha ? Ne soyez pas désespérés. Il dit à ses frères, ce n'est pas vous, mais Dieu qui m'a envoyé ici. Alors, si tu comprends quelque chose, quand on essaye de le décortiquer, de le comprendre, on se dit, là, il y a un problème. Parce que, pour que quelqu'un arrive à parler comme ça, il a la compréhension de 22 ans, de souffrance. Et j'ai rarement entendu, dans tout ce que j'ai pu suivre dans la vie des gens, dans toute l'analyse que l'on peut faire, jamais je n'ai entendu quelqu'un dire, j'ai un chemin nouveau. Et dire à ceux qui les auraient blessés, ceux dont on rend les personnes responsables de leur souffrance, de leur cassure, de tout un tas de choses, dire, vous avez contribué à me faire devenir ce que je suis. Qui parle comme ça ? Quand quelqu'un t'a blessé, c'est qui ? C'est un ennemi. C'est quelqu'un qu'il faut écarter de sa route, qu'il ne faut plus jamais voir. En fonction du mal qui a été fait, ça peut être une haine grandissante, voire même le désir de faire mourir ou de tuer. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Toutes sortes de circonstances. Quand on porte la responsabilité sur l'autre. Mais dans la vie du croyant, qui théoriquement devrait être complètement différente, ça c'est la vie du monde, d'accord. Mais la vie du croyant, est-ce que nous aurions quelque part une prise de conscience que parfois ce que nous appelons ennemi est un allié. Que celui que t'aimes pas, qui t'aime pas, qui t'a cassé, qui t'a dit des mauvaises choses, et peu importe sur le fond, la forme, et puis de faire le et de dire ouh, faut se méfier, ouh, c'est un envoyé du diable, c'est un danger, et ils vont prier à la maison. Oh, je le chasse, je le chasse, je le chasse. Ouais, il revient au galop, hein. Il y a des fois des trucs comme ça. Une fois, j'ai fait ça parce que je ne connaissais rien. Puis à chaque fois, il revenait. Alors j'ai dit, non, ce n'est pas la bonne méthode. Hein. Alors j'ai dit, si tu me casses les pieds, je te mets un coup de boule. Là, il a arrêté. Mais, regardez, ne soyez pas désespérés. Ce n'est pas vous, mais Dieu. Pourtant, c'est bien les mains des frères. C'est la haine des frères, la jalousie des frères. Et ce que Christian n'a pas mentionné, parce que ça allait encore plus loin que simplement la haine pour le vendre, c'est qu'en fait, à la base, il voulait le faire mourir. À la base, il voulait le faire mourir. Il y en a un qui s'est élevé en disant non, quand même pas. Mais ils ont quand même fait croire au père un gros mensonge en disant ton fils est mort. Qui est capable d'enregistrer une telle nouvelle que tout va bien? Il est dans les champs, Yosef. Il est avec les frères, avec la famille. Il est protégé, il est suivi. Et tout à coup, ils reviennent et ils disent « Ton fils est mort ». C'est un choc. C'est un choc, moi on me dirait comme ça, de but en blanc, ton fils est mort. Ce serait un choc. Même si je suis en Dieu, je ne ferai pas « Alléluia ». Il y a certains charismatiques, peut-être, mais pas moi. Et il faut quand même dire que, à un moment donné, il faut être réaliste. Ton fils est mort, Yaakov. L'amour de ta vie, celui que tu, sur qui tu comptais, que tu aimais, qui était ta consolation, la consolation de ta vieillesse, de tes années de souffrance à toi. Yaakov, ton fils maintenant est mort. Tu n'as plus de consolation. Et c'est vrai que ce qui a amené Yaakov à vieillir, à devenir mourant, c'est là, cette nouvelle-là. Qui peut mesurer l'impact d'une parole dans la vie de quelqu'un? L'impact, on ne peut pas le mesurer. On n'a pas d'unité de mesure. Mais il peut casser, briser 20 ans futurs. Il peut briser 15 ans futurs. Il peut briser 5 ans futurs, ça dépend de la parole qui est dite. Et souvent, ce que je déplore, c'est la manière dont souvent les croyants se parlent entre eux. La manière dont ils s'expriment, pensant qu'ils sont très spirituels, pensant que c'est vraiment de la part de Dieu et qu'ils annoncent des malédictions. Et même quand ils veulent changer d'assemblée ou quand ils veulent prendre une autre orientation, les paroles qui leur sont données sont des paroles qui brisent leur futur, qui les brisent par rapport à leur passé, et en même temps on leur fait peser un poids, tu vas être maudit, tu vas être ceci, tu vas être cela, et si tu désobéis, nous on a appris que même des gens sont liés par la parole de leur pasteur ou autre, c'est un exemple de Suisse que je prends, où on dit, non tu n'as pas le droit d'aller répondre à l'appel de Dieu, nous t'avons soutenu, tu dois nous rembourser. Ah oui, non, mais on en est là aujourd'hui. Et tu vas rester. Vous comprenez ça, vous? Mais peut-être que c'est bon pour le gars. Simplement, la forme n'est pas belle. Mais c'est bon pour le gars. Vous savez pourquoi c'est bon pour le gars? Parce que ça va lui apprendre quelque chose. À ne pas se diriger comme il veut, quand il veut et où il veut. Et d'apprendre à, dans la souffrance, dans les choses où Dieu veut faire, la formation, elle est là. Dans ce temps de l'incompréhension, dans ce temps de flottement, dans ce temps où justement rien n'est palpable, rien n'est compréhensible et que tout échappe. Yosef dit, ne désespérez pas, hein, ce n'est pas vous, mais Dieu qui m'a envoyé. Devant vous, en plus, il dit. Alors, le point clé, pour préparer la délivrance, il se trouve dans Béréchit au chapitre 46 et le verset 4. Nous arrivons justement avec la paracha des Yosef sur les derniers chapitres des Béréchit. J'ai dit 46. Hein. Ouais. Il faut voir si ça correspond. On va lire à partir du verset 2 plutôt. Alors écoutez bien là, les jeux de mots, que je ne vais pas vous traduire, mais c'est une bonne recherche. Le Seigneur parla à Israël. Ça, c'est intéressant. Dans les visions de la nuit, disant, Yaakov, Yaakov. Attends. Ça, c'est beau. Non ? Parle. Les Daber, parle. Parle. Parle à Israël, mais dans les visions, il ne s'adresse pas à Israël, mais à Yaakov, à son ancien nom, pas le nom qui lui a été donné, le nom de la fuite, de l'exil, de la haine, des aves. Yaakov, Yaakov, et deux fois. Dommage, je n'ai pas le temps de m'arrêter là. Il répondit, me voici. Et il poursuivit, je suis le Seigneur Dieu de ton Père. N'hésite point à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Ah ! Moi-même, écoutez là, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même aussi, je t'en ferai remonter. Et c'est Yosef qui te fermera les yeux. Ah ! Qui avait lu ce verset déjà ?
Si. Oui, c'est la
paracha. Et ceux qui ne lisent pas la paracha, ils sont trop intelligents et qui lisent Jean 1. Et bien voilà, il rate tout. C'est important pour saisir pleinement le sens, la compréhension. C'est qu'il ne faut pas simplement l'intelligence naturelle, il faut l'intelligence du cœur, il faut l'intelligence de l'intériorité, de la vie. Parce qu'il est très difficile de saisir le sens de l'histoire uniquement sur un plan émotionnel. Tout est brouillé, tout est faussé, tout est traduit. L'intelligence n'arrive pas à dénouer parce qu'elle ne peut pas donner de raison et de cause à la souffrance. Elle ne peut pas relier les points clés de nos souffrances dans un but. Alors, il y a problème. Même si en psychologie, on remonte, il y a des choses qu'on arrive et puis il y a d'autres, ils n'arrivent plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On te bourre de médicaments pour anesthésier, pour que tu n'aies plus rien là-dedans. Et tu dors, et tu dors. Et c'est la mort. C'est l'état de mort. Alors, il est difficile de comprendre une chose, et là, maintenant, même si... Ouais. On est à Shabbat. Hein. Il est difficile de comprendre quelque chose. Dans le jeu de mots qui a été fait, difficile que Dieu dise que Dieu va venir lui-même faire souffrir. Va être la présence dans la souffrance. Et il dit que la Shrina sera dans cette période qui va durer longtemps. Et que la présence de Dieu sera dans l'Égypte. Mais la Shrina, la présence de Dieu, n'a jamais été dans l'Égypte. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu n'ira dans le lieu de l'idolâtrie. Ou il le détruit, ou alors c'est incompatible. Ou alors ce verset, il dit n'importe quoi. Et comment devons-nous le comprendre ? Alors il dit tout simplement que la Shrina était avec Yosef en Égypte, comme elle a été avec la descendance de Yaakov. Et cette Shrina n'était pas en Égypte. Il faut bien comprendre, elle n'habitait pas le pays d'Égypte, la terre. Elle n'a pas béni l'Égypte, mais elle a préservé Yosef. Et la chose que très souvent les gens ont du mal à comprendre, c'est comment Dieu peut être avec moi quand je souffre. Est-ce que dans les moments les plus durs, plus cruciaux, de la maladie, de la souffrance, quelle qu'elle soit, psychologique, affective et autre, parce que nous mettons la divinité de la souffrance au-dessus de la puissance de Dieu. Très souvent, non ? La souffrance nous domine, c'est ça l'esclavage. La souffrance nous conduit, elle nous dicte le comportement, elle nous dicte les paroles, mais elle ne guérit jamais. Elle ne conduit pas à la guérison, mais au contraire à la destruction. Alors comment comprendre que la présence, la Shrina, la gloire, Dieu puisse dire, moi-même, je serai, je descendrai. Dieu n'a jamais qu'à deux reprises utiliser ce terme « je descendrai » dans toute la Bible. C'est pour les deux niveaux de délivrance d'Israël. Quand Dieu a entendu les cris, les douleurs, il dit « il est venu, il est descendu ». Ce n'est pas Moïse envoyé, c'est que Dieu est descendu et qu'il est venu. Ça donne un relief totalement différent, une compréhension totalement différente. Ce qui veut dire que la Shrina était avec Yosef. Et il y a quelque chose qui nous est dit un peu plus loin, si on lit dans les versets, il est dit que le sens, alors là on entre dans la profondeur, on entre un petit peu dans le cœur du noyau qui va dénouer beaucoup de choses après. Il dit tout simplement, je suis avec lui dans la détresse. Ça, c'est littéral. Le sens de là, je descendrai, je serai avec. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Comment comprendre ça? Il ne dit pas dans sa détresse. Je ne serai pas avec lui dans sa détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu est avec nous en Mitzrayim. Et Mitzrayim, ça vient d'un mot mitzar. Et mitzar signifie tout simplement souffrance. Celui qui vit dans l'Égypte, qui n'a pas quitté l'Égypte et qui ne marche pas dans le chemin de Dieu, il vivra la souffrance. Parce qu'elle est établie dans ce principe-là d'habitation, d'existence, de vie, de pratique. Ceux qui ne vivent même pas Dieu à la maison, ceux qui ne font même pas de culte avec les enfants, ceux qui font le culte de la dispute, mais qui chaque dimanche sont cravatés et font Alléluia, bidon. Désolé, je suis radical. Je ne peux pas être autrement, moi. Parce qu'il y a un gros mensonge. Il y a quelque chose de double. Mais après, un prédicateur vient, un prophète ou je ne sais pas quoi, vient, fait un appel, c'est les premiers à venir pour être délivrés. Et toute la semaine, ils vivent comme des captifs. Ça ne va pas ? Ça, il faut sortir de ça. Et Yosef donne la clé. Parce qu'il rétablit la vraie relation avec Dieu. Il démontre ce que c'est que de vivre avec Dieu et d'obéir à Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Et que toute chose concourt au bien. 22 ans, la présence de Dieu l'a accompagné dans la détresse pendant 22 ans. Mais pendant 22 ans, il n'a pas été délivré. Il a même subi encore des choses plus dures. Il a été en prison, accusé, de viol. On l'a accusé de toutes sortes de maux. On l'a oublié dans la prison. On l'a trahi. Mais Yosef va bien. Et oui, il faut prendre des paramètres de tout. Et il dit, à un moment donné, que Dieu est avec lui. Et il est écrit à plusieurs reprises, Dieu était avec lui. Et parce qu'il était avec, ce qu'il faisait était béni. Mais comment se fait-il que Yosef pouvait être béni après avoir été tellement malmené? Nous, pour moins que ça, quelqu'un qui ne dit pas bonjour à quelqu'un, il en a pour une semaine. 10 ans après, il va te le sortir. Oui, mais tu te rappelles, dans un culte ou dans un office de Shabbat, j'ai passé à côté de toi, tu as tourné la tête et tu ne m'as pas dit bonjour. Je peux te dire, c'est du haut niveau, tu vois. C'est vraiment c'est le furtif, tu vois, supersonique. Et là, tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment quelqu'un peut se rappeler? Tu as tourné la tête alors que peut-être tu n'as même pas fait exprès. Puis si tu n'as pas envie de dire bonjour, ben tu as le droit. Mais les gens ne comprennent pas. Il faut dire bonjour, ben non. Tu n'es pas obligé. Et derrière, ils en font toute une maladie qui va pourrir leur vie. Et ils vont en rester. Il l'a fait intentionnellement. Il me voulait du mal, il ne m'aime pas. Il se détruit. Il se détruit. Alors si ça, déjà, ça a un effet négatif, je vous laisse imaginer des choses un peu plus rudes. Et je ne vois pas où ça mène. Mais justement, le secret, c'est de dire qu'à un moment donné, quand Dieu est avec nous dans la détresse, ce n'est pas qu'il est passif. Il nous laisse vivre dans la dimension. Mais sa bénédiction nous fait grandir. Et elle prépare le futur. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la souffrance est la préparation du futur. De l'homme nouveau qui naîtra hors de la souffrance et qui deviendra la bénédiction de toutes les générations jusqu'au Mashiach. La souffrance de Yosef, et on ne le verra pas aujourd'hui, est quelque chose d'extraordinaire. Mais elle nous amène dans des choses qu'on étudiera. Alors c'est vrai, parce que il y a un paradoxe, une anomalie dans tout ça. Toutes nos prières, j'entendais encore, toutes nos prières, c'est sur nous. Toutes les prières, c'est pour nous, sur nous, par rapport à nous, que pour nous. C'est de dire, Seigneur, délivre-moi, merci, tu m'as sauvé, merci, tu m'as gardé, merci.
Ouais.
Apprends à prier. Arrête de dire toujours la même chose. Prie, dis pas seulement parce que tu veux faire bien, parce que c'est gentil, parce que c'est poli, et que tu veux montrer que tu es poli à Dieu, et que tu es dans la politesse de lui dire merci tout le temps. Il n'est pas sourd. Il a une mémoire éternelle. Il n'a pas besoin qu'on lui dise constamment les mêmes choses qu'on ne pense pas. C'est ça le danger. C'est de dire à Dieu d'utiliser des choses qu'on ne pense pas. Et de dire simplement, voilà, on a besoin d'exprimer quelque chose que je comprends tout à fait, qui est peut-être une manière d'exulter. Mais d'un autre côté, elle est piégeante parce qu'elle nous garde enfermés dans le blocage du futur. Elle ne nous montre pas le chemin de la délivrance. Même notre prière démontre où nous sommes enfermés, où nous en sommes. Parce qu'elle nous dit, mais Seigneur, je souffre, Seigneur, viens me délivrer. Et si on ne s'occupe pas de moi ici, je vais aller ailleurs. Là, ah oui, il y a un super onction là. Il y a bon. Il va mieux. Ouais, 3 semaines. 1 mois pour les plus robustes. Et puis c'est reparti. Et pendant 10 ans. Merci Seigneur, parce que. À un moment donné, la prière doit être orientée. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Seigneur, délivre-moi qui va nous délivrer. C'est pas de demander la délivrance, c'est pas de chercher la délivrance. C'est de vivre sa délivrance. Vivre sa délivrance dans le temps de son emprisonnement, dans le temps de sa souffrance, dans le temps de l'incompréhension, dans le temps où ça fait le plus mal. C'est ça le secret. C'est pas facile. C'est une grande maturité spirituelle qu'il faut. C'est grandir dans le Seigneur. C'est d'accepter la souveraineté de Dieu sur soi. C'est d'accepter un niveau complètement différent de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui où tout est fait pour « tu vas bien ? Oh, il faut aller bien. Celui qui ne va pas bien, il n'a pas la foi, il n'a pas l'onction. » Non mais oh, dépassons ce cap, le cap des gamins, de l'école maternelle. Entrons dans la dimension de la gloire de Dieu qui est un père et qui n'est pas un bourreau, qui n'est pas quelqu'un qui veut torturer pour dire « ah » à la moulinette. Il prend aucun plaisir à nos souffrances. Mais il sait que nos souffrances sont la scorie de nos cœurs et que pour devenir un diamant, il faut que nous soyons tailladés. Et que plus nous allons être tailladés, affinés, plus le diamant aura de la valeur. Plus il aura des facettes. Plus il vaudra quelque chose. Autrement, ta vie, qu'est-ce qu'elle vaut ? Tu peux avoir un diamant à l'état brut. Tu peux être un diamant à l'état brut et le rester toute ta vie. Et à rester un diamant à l'état brut toute ta vie, il arrivera qu'à un moment donné, eh bien ta vie n'aura pas pu être ce qu'elle aurait dû être dans son éclat et sa valeur. Mais que si le creuset du Seigneur passe et qu'il rabote, alors c'est pas casser les pieds aux gens, c'est pas accuser. C'est Dieu qui fait un travail personnel avec la personne. Mais Yosef a joué le jeu. Moi, je ne sais pas comment vous auriez pris. Allez, on vous accuse faussement de viol. Quelle réaction ? Tu retournes chez Potiphar, lui dire bonjour ? Ben oui, ben c'est ça. Ben c'est ça. T'es accusé de viol. On t'accuse de tous les maux, alors que tu as voulu être le contraire. Et qu'est-ce qu'on dit ? Ah, Dieu connaît mon cœur, attention, hein, ne dis pas n'importe quoi sur moi. Puis ça se dispute. Moi, je ne te défends plus. Tu t'en fous. Tu dis, ah, je me suis trouvé confronté à des situations analogues, là, ces jours. Bah, je dirais, ah oui, bon, bah ouais, ouais. Bon, respect, bon, bah ouais, si ça te fait plaisir, bah ouais. Et on évite le mal. Alors, comme il faut quand même que je donne une conclusion, c'est que si nous comprenons que la délivrance n'est jamais dans le présent, mais dans le futur, dans ce que nous serons, parce que tout ce que nous vivons là, c'est pour devenir. Nous ne pouvons pas devenir sans avoir ce présent mourir. Et le secret que nous devons comprendre, c'est celui de faire régner Dieu dans tous les lieux de sa souffrance, dans tous les lieux de souffrance, de détresse de la vie, car autrement elle nous domine et elle nous détruit. Mais si elle est domptée par la compréhension du plan de Dieu, elle construit l'avenir. Elle donne une issue. Elle oriente. Elle éclaire. Et Dieu règne. Et c'est ce qui s'est passé pour Yosef pour dire après, ce n'est pas vous, mais Dieu qui m'a mis là. Pour ça. Il a compris tout le sens d'avoir été trahi, vendu. Même de savoir que on dira à son père, ton fils est mort. Même ça. Sortir des pays étrangers, de l'idolâtrie, parce qu'autrement, c'est par là que la puissance démoniaque règne. C'est les ténèbres, c'est rien d'autre. C'est un état de chaos. La présence de Dieu avec Yosef l'a fait triompher du futur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la souffrance de Yosef, ça a été la souffrance du Messie. Ésaïe 53. Et ce n'est pas pour rien que les rabbanim associent le Messie Ben Yosef, de la descendance de Yosef, à la souffrance de l'humanité et d'Israël. Je ne suis pas d'accord avec le rabbin. Et si j'avais le temps, je le prouverais. Mais on le prouvera. Parce qu'il faut comprendre plus loin maintenant que la vraie délivrance d'Israël va passer par la dimension du fils de David. Il a été effectivement dans sa première venue le Mashiach. Il a vécu la souffrance du mal, de la mort. Il a pris sur lui toutes nos iniquités, tous nos maux, toutes nos maladies, tout ce que vous voulez, toute la grandeur du mal, de la mort, il a vécu. Mais il a vaincu. Il n'a pas été vaincu. Il a vaincu. Tel est le sens de la résurrection. C'est de régner dans le futur. Et c'est pourquoi, lorsque nous commençons à accrocher et à capter, nous comprenons que là, Yosef, l'histoire, ce n'est pas simplement l'histoire à raconter à des enfants, mais que derrière, c'est toute la dimension du Mashiach, toute la dimension de Yeshua Mashiach. C'est le Messie, quand il est venu, il est descendu dans la détresse de l'homme. Et on pourrait donner les deux sens essentiels principaux par rapport à toute la compréhension, la dimension de l'exil et de la rédemption. La rédemption, c'est une restauration au règne du Messie. Alors, je vais juste vous mettre l'eau à la bouche. Je ne sais pas, non, mardi, il n'y a rien. Mais peut-être Shabbat prochain, ou un autre Shabbat, je ne sais pas, ou un mardi, je ne sais pas, à ma convenance. Vous n'avez qu'à être fidèle pour suivre. Tiens, voilà, bon test. Parce qu'il y a les infidèles fidèles. Il y a les infidèles fidèles à leur infidélité. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est très rabbinique. Parce que là, nous entrons déjà dans le cheminement de la profondeur qu'est la Haftara, qui traite du rassemblement des exilés, de la restauration d'Israël et du règne du Messie, qui est dans Ézéchiel 37, et que là nous pourrions aller beaucoup plus loin, parce qu'il parle de Juda et d'Éphraïm, la descendance de Yosef. Mais il y a un passage dans la Haftara aussi, dans les rois, et dans le prophète Shmuel, où il est dit qu'à un moment donné, Yosef va venir rencontrer Yehuda, dans l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, et il va lui dire « Je suis différent de toi, on n'a rien à voir les deux. » Et le schisme futur d'Israël, sous Yéroboam, est compris dans cette histoire de Yosef. Et que toute la descendance, c'est que le danger, pour vous mettre l'eau à la bouche de tout ce qu'on va étudier là-dessus, vous voulez que je vous donne un peu la trame? Seulement la trame. C'est de voir aussi que, avec le petit Benjamin, il y a toute l'histoire de Shaoul et de Paul dans la relation. Il va y avoir toute la dimension d'Israël et de l'Église. Il va y avoir toute la compréhension des deux maisons d'Israël, car ils sont représentés dans la Haftara par les deux morceaux de bois qui vont se rassembler, se rapprocher. Et ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et en même temps, Yosef, qui est le Messie de l'exil, et qui est Mashiach, car il nous a fait sortir, il a fait sortir l'humanité de l'exil. Mais il va nous introduire dans le règne. Nous ne sommes pas dans le règne. Nous allons entrer dans le règne. Et toute la souffrance du temps présent, comme dit Paul, n'est rien. Elle est banale comparée à la gloire à venir. Il sera révélé à ce moment-là comme étant le fils de David, le seul qui a tout réconcilié, à la brisure de ce qui avait été fait. Et C'est là que nous allons trouver le secret de ce qui conduira chez Moth plus tard, juste quelques chapitres après. C'est de voir Enchem Racher. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom, un seul Chem. Il n'y a pas 36 noms de Messie. L'histoire d'Israël fourmille de faux Messie. Et elle est pleine d'espérance messianique. Mais qui accomplira ? La souffrance d'Israël aujourd'hui, c'est ce Messie Ben Yosef caché, que même si les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre, ne peuvent vraiment connaître Yeshua dans son identité. Mais à un moment, il dira, j'ai été envoyé. Et ils le verront, ils le reconnaîtront. Il y a Ésaïe 53 et les quatre tsemar qui nous parlent des devenus du Mashiach. Et il y a quelque chose de très profond avec les morceaux de bois. Et je voudrais simplement terminer pour tous ces plans à développer. C'est de dire que aujourd'hui, on est en plein dedans. Il y a les deux maisons. Il y a la maison d'Israël, la maison de Yehuda. Et qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux mouvements qui s'appellent Maison d'Israël et qui se différencient et qui se disent, entre guillemets, forme messianique et qui essayent d'usurper l'identité de Yehuda dans la foi, dans l'émouna, dans l'expression. Et ces gens-là passent aussi, et ça je peux le prouver, parce qu'il y a des traces historiques, par tout un tas de modifications, même des prononciations en disant Yahshua, en inventant toutes sortes de formes qui n'ont jamais été d'ailleurs. Et tout ça est relié, et ils s'appellent des Ephraïmites. Et ils se disent qu'ils sont de Yosef, parce qu'étrangers, ils ne sont pas juifs. Mais ce sont des non-juifs qui veulent devenir tellement juifs que leur principe, c'est leur dégoût de l'Église et des dogmes, parce qu'ils estiment qu'elle est montée sur le système babylonien, qu'elle s'est écartée, et que ceci et cela. Mais en même temps, derrière, ils sont en plein dans la théologie de la substitution du vrai Israël. Et là, il y a beaucoup à faire. Ça, c'est les enseignements que je veux donner. Mais il faut que je puisse le faire. Pour que la santé permette, il faut que le temps me permette. Parce que je peux aller dans des profondeurs que vous n'imaginez pas. Mais si je manque de temps, je peux aller qu'à une certaine profondeur. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Quelques versets contiennent l'éternité. Nos vies, nos années de vie contiennent l'éternité de Dieu. Soit nous sommes formés dans un homme nouveau de Dieu, soit nous ne serons jamais l'homme accompli. Nous serons l'homme inaccompli. Nous serons celui qui n'arrivera jamais à la stature parfaite. Et ça, c'est la chose qu'il faut retenir.